Si je ne me trompe pas, on est 10 fois plus qu'à la création de l'État d'Israël. Peux-tu me définir Dieu? Quelqu'un peut définir Dieu? Idem le peuple juif. Qu'est-ce qu'un juif? Ce cours est dédié pour que Émile Meir Ben Martin ait une bonne vue dans les deux yeux. Be'ezrat Hashem. Quelqu'un m'a écrit. Il s'avère que, alors je vous lis à peu près le texte là, deux youtubeurs organisent régulièrement des lives pour critiquer l'islam. Cette fois-ci, ils ont interrogé une jeune femme juive pratiquante, fille d'une mère juive et d'un père musulman. L'échange a principalement porté sur la notion du peuple juif. Les youtubeurs remettent en question la logique et la cohérence de l'identité juive, oscillant entre peuple, ethnie, religion et nationalité. Ils contestent la possibilité d'être à la fois juif par origine et non pratiquant, et d'avoir quitté la foi. Ou d'être juif et d'avoir quitté la foi. Ils comparent la définition du peuple juif à celle d'une simple religion, comme l'islam ou le christianisme, remettant en cause la spécificité juive. Ils évoquent aussi des sujets sensibles, tels que la lapidation de la femme adultère, et le mariage de Bathsheba qui avait 7 ans, quand il se marie avec le roi David. 7 ans. Un peu jeune. Pour tenter de mettre la jeune femme en difficulté sur des points de Torah, mais le cœur de la discussion reste l'identité juive. Les youtubeurs insistent sur ce qu'ils perçoivent comme des incohérences, en opposant la définition anthropologique d'ethnie, de peuple, à la réalité juive. Par exemple, un juif converti qui quitte la foi, reste-t-il juif? Bon, eh ben on va en parler. On va faire une réponse. Donc le type qui m'a écrit me demande de répondre parce qu'il dit que ça peut revenir sur le plateau. Bon, c'est l'occasion de bien définir des choses que les gens ne savent pas. D'abord, pour l'essentiel, ça va être ici la définition du juif. Les deux petites questions là sur l'adultère et Bathsheba, bon, il faut savoir que, effectivement, d'après la Torah, une femme adultère subit la lapidation. Mais je pense que jamais de l'histoire, ça arrivait une chose pareille. Parce qu'il faut que juste avant qu'elle ait la relation interdite avec son amant, il faut que deux témoins cachers lui disent « Attention, on t'avertit, si tu fais ça, tu seras lapidé. » Elle, directement après, elle a la relation avec eux, et eux doivent être témoins. Quoi. Ils ne regardent pas le trou de la serrure. Ça arrive, c'est presque jamais arrivé une chose pareille. De plus, c'est théorique. Il y a eu des cas de peine capitale il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, ça a arrêté. Pour pouvoir faire une peine capitale, il faut que le tribunal rabbinique soit dans le temple. Mais même avant la destruction des temples, déjà avant, ils ont quitté le temple pour arrêter. Et c'est écrit qu'un tribunal rabbinique qui tranche une peine capitale une fois tous les 70 ans est considéré comme meurtrier. Donc on est très très loin du Texas, par exemple. C'est qu'au Texas, ils sont à 2-3 000 déjà... condamnation à mort. Pratiquée et faite, d'accord. Et je vous parle il y a 2000 ans. Donc, ça n'existait pas une chose pareille. C'est théorique, mais ça n'existait pas. Bathsheba, elle a 7 ans quand elle se marie avec le roi David. Elle tombe enceinte. Tu connais, toi, une fille de 7 ans qui tombe enceinte? Ça veut dire qu'à l'époque, la nature était différente. Comme on voit que Rivka avait à 3 ans quand elle se marie. Et à l'âge de 3 ans, elle va dans le puits, elle ramasse de l'eau pour 10 chameaux. Enfin, on voit le texte même comme elle parle, mais comme une femme adulte. Donc, il y avait, comme ça on dit les sages d'Israël, qu'il y avait une autre réalité naturelle. Et si une femme de 7 ans peut avoir des enfants, ben, elle peut aussi se marier. Ça n'a rien à voir avec la réalité que nous avons aujourd'hui, où effectivement, une petite 7 ans, elle joue à la poupée encore et elle ne peut pas se marier. D'accord? Ça, c'est les points dont ils ne sont pas les points essentiels. Le point essentiel, c'est l'identité juive. Alors moi, je n'ai pas compris ce qu'ils voulaient exactement. Ils vous montrer que c'est une identité qui n'est pas une identité. Regarde, je pense que l'identité juive, c'est quand même une des choses les plus extraordinaires, vraiment, qu'il y a dans le monde. Et je pense que c'est le plus grand argument que les juifs peuvent opposer aux non-juifs quand un non-juif cherche la vérité. Il dit, mais ouvre les yeux. Tu as un peuple qui prétend que Dieu lui a parlé. C'est écrit dans sa Torah, dans son texte, que, regarde, est-ce qu'il y a un peuple qui a prétendu que Dieu leur a parlé au peuple entier et le peuple a survécu? La Torah prétend que ça n'existe pas, ça ne peut pas arriver une chose pareille. Et qu'à toi ça arrivait. C'est déjà pas mal. En plus, il est à la base des grandes religions de l'histoire. Mais la chose la plus puissante qu'il y a, c'est que ce peuple-là, il est écrit dans Jérémie que tant que le soleil, le ciel, la lune, les étoiles existeront, il existera aussi. C'est un peuple éternel. Et les ennemis d'Israël, qui sont très nombreux, ont tout fait pour que cette prophétie ne se réalise pas. Et pourtant, après 2000 ans d'exil, qu'est-ce que je dis, 2500 ans d'exil, de souffrance, à chaque génération, nous lisons un texte le soir de Pessah, à chaque génération, quelqu'un se lève, pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de sa main. Chaque génération, quelqu'un se lève. C'est quand même marrant. Mon beau-père de François disait, mais je ne comprends pas, il ne regarde pas l'histoire. Ces gens-là qui se veulent, qui veulent nous anéantir, regarde, tu n'es pas le premier. Ça a commencé avec les Babyloniens, après avec les Perses, après les Grecs, après les Romains, après les Arabes, après les Croisés, après l'Inquisition, après les Cosaques. Le dernier siècle, on a droit à Hitler, on a droit à Staline, on a droit à Khamenei maintenant, d'accord, c'est son rêve, d'accord, pourquoi il veut une bombe atomique? Pourquoi? D'accord. Et j'en passe. Et ce peuple baisse la tête, la vague passe, il se relève et il est là. Et très souvent, ses ennemis qui ont voulu sa fin, eux ont disparu. Et ça, jusqu'à 77 ans, l'État d'Israël a été créé sans armée. Sans armée. Il y a un très grand rabbin du 3e siècle, Yabetz, il dit « Je jure par ma vie que chaque jour où le peuple d'Israël continue à survivre dans cet exil, c'est plus grand que tous les miracles de sortie d'Égypte. » Complètement anormal. Et moi, j'en joue maintenant encore plus que cela. C'est marqué, je recommande à tout le monde d'aller lire le chapitre 36 de Yéhézkel, qui dit que Dieu nous enverra en exil dans les peuples, parmi les peuples, mais après nous ramènera sur la terre d'Israël, qui sera une terre aride, bien que c'est une terre extrêmement fertile du point de vue potentiel, dans laquelle coule le lait et le miel, c'est marqué dans la Torah. Et la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, anormale. Les non-juifs ont appelé ça le miracle agricole israélien, comme du désert, on a fait dans tous les pays actuellement, tous les pays du monde, le désert prend du terrain sur les régions vertes. Il y a un seul pays où c'est le contraire, en Israël. C'est les régions vertes qui prennent du terrain sur le désert. Et les terres détruites, les villes détruites vont être reconstruites, c'est marqué comme ça, ça a été le cas. Regardez Jérusalem. Moi, mon arrière-grand-père, il est venu d'Ouzbékistan, Boukhara, en 1873, il y a 150 ans. C'est le premier qui a fait un des premiers quartiers hors des murailles de Jérusalem. Un petit quartier, le quartier des Boukhariens. Mais aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. C'est une ville énorme, Jérusalem, par rapport à ce que c'était. Les villes détruites sont reconstruites. Et le peuple se multipliera sur la terre. Ils foisonneront. S'il ne me trompe pas, on est 10 fois plus qu'à la création de l'État d'Israël. Je crois qu'il n'y a aucun pays au monde qui a une multiplication pareille, aussi grande, dans si peu de temps. Et à la fin, Dieu fera en sorte qu'on revienne vers sa Torah. C'est toujours dans ce même chapitre 36 de Yéhézkel, ce que nous sommes en train de vivre. Donc, tu vois ça, tu dis, tu veux poser des questions que tu poses là, c'est quoi, il y a une incohérence, machin, non mais tu comprends que tu es devant une réalité quand même divine, en tout cas, qui dépasse l'entendement. Ben, c'est exactement ce qui passe avec la définition du juif. Le peuple juif est un peuple de Dieu. D'ailleurs, même dans le mot Yehudi, est écrit le Yehudi qui signifie juif, d'accord, on voit le nom de Dieu. Les trois premières lettres, c'est Yud, et puis Hei, et puis Vav. Donc les trois premières lettres du nom de Dieu qu'on n'a pas le droit de prononcer. Et le dernier, Dalet et Yud, tu mets le Yud dedans, ça fait un Hei, ça fait le nom de Dieu. Yud Kevavke. Donc on est un peuple de Dieu. Dès lors, peux-tu me définir Dieu? Quelqu'un peut définir Dieu? Il n'y a aucune définition de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas? On ne sait pas ce qu'il est. On peut dire qu'il n'a pas de forme, il n'a pas de physique, il n'a pas d'image, il n'a pas de fin. Mais qu'est-ce qu'il est? On ne sait pas. Idem le peuple juif. Qu'est-ce qu'un juif? Et moi, je refais maintenant le pari ici, online. J'ai souvent dit, je donne 1000 euros, je suis prêt même à doubler la mise, 2000 euros. Celui qui me donne une définition rationnelle du juif. Cette question des youtubeurs, c'est au contraire, c'est extraordinaire. Ça montre que c'est un peuple hors commun. Hors commun. Je vais expliquer maintenant exactement dans le détail, de façon la plus rationnelle qu'il puisse y avoir. Quelqu'un peut-il me donner une définition rationnelle du juif? Est-ce que c'est une religion? Non? Parce que tu as beaucoup, la majorité des juifs aujourd'hui, hélas, sont non religieux, mais ils sont juifs. D'après la Torah, ils sont juifs. Bon. Est-ce que c'est une descendance généalogique? Tous les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Non. Puisqu'elle est convertie. Et même les plus grands du peuple juif, le Mashiach que nous attendons, c'est le Messie, c'est un descendant du roi David, dont l'arrière-grand-mère était une convertie, Ruth Moabite. Rabbi Akiva, fils de converti. Hillel, fils de converti. Les deux maîtres de Hillel, Shmaïa, Telon, eux-mêmes des convertis. Tu as des plus grandes figures du judaïsme qui sont soit convertis, soit descendants de convertis. Rabbi Meir Balanes, descendant de convertis, etc. Bon, alors ce n'est pas une descendance généalogique. Alors qu'est-ce que c'est? Un peuple juste. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. C'est soit une religion, c'est pas une religion. Soit une descendance généalogique, c'est pas. Alors ça, c'est un peuple. Le peuple juif, comme on l'appelle, le peuple juif. Contrairement aux musulmans et chrétiens qui ne sont pas des peuples. Il n'y a pas le peuple musulman, il n'y a pas le peuple chrétien. Il y a un Français, le peuple français, et dans les, chez les Français, il y a une partie chrétienne et une grande partie musulmane. Ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau. Donc tu as un peuple et tu as une religion. Mais ce n'est pas la même chose. Le peuple juif, ce n'est pas une religion, c'est un peuple. Et maintenant, on arrive au point intéressant. Quelle est la définition d'un peuple? C'est quoi la définition d'un peuple? Ce n'est pas tous descendants de du même père ou de la même mère, d'accord? Ce n'est pas tous qui pratiquent la même religion. Qu'est-ce qui définit un peuple? Tous les peuples sont définis par une appartenance à une terre. À une terre. Tu habites la France, depuis un certain temps, tu es français. Il y a 500 ans, un Français quitte la France et va habiter en Écosse, ben, il devient écossais. Il pourra dire, j'ai des origines françaises, mais moi, je suis un citoyen écossais. Oui.
Les Druzes, par exemple.
Les Druzes,
ils
oui.
Ils sont rattachés à une terre, c'est un peuple, hein.
Les Druzes, ce sont les descendants de Yitro. C'est la famille, oui, ils le savent, d'ailleurs, eux-mêmes le revendiquent. Alors, eux, c'est une descendance généalogique, absolument. Donc, le peuple est défini par l'appartenance à une terre. Comme ça, c'est tous les peuples. Le peuple juif, il a une terre, la terre d'Israël. Mais ce n'est pas la terre d'Israël qui le définit en tant que peuple. Le peuple juif, il est né dans le désert. Pas pour rien, pour pas qu'on se trompe et qu'on croit que c'est la terre d'Israël qui l'est définie. Il est né dans le désert, est devenu peuple juif, et là, après, il a reçu une terre que Dieu leur a donnée. La majorité de l'histoire, de leur histoire, ce peuple, n'a pas habité la terre d'Israël. Et encore la majorité aujourd'hui des juifs n'habitent pas la terre d'Israël. Donc ce n'est pas la terre d'Israël qui l'est définie. Si un juif a quitté la terre d'Israël il y a 2000 ans, en exil, d'accord, il reste juif, ce n'est pas la terre d'Israël qui le définit. Parce qu'on a bien vu un Français qui quitte la France il y a 500 ans, aujourd'hui il est écossais, il n'est plus français. Même pas il y a 500 ans, après un siècle déjà, c'est terminé. Mais après 50 ans. Nous, on est un peuple qui a quitté la terre en majorité il y a 2000 ans. À l'époque, le Nachmanide et le Disputation de Barcelone, il y avait un apostat, un juif qui s'est converti au christianisme et qui a convaincu le roi de faire un débat public contre le judaïsme. Il a accepté, mais à condition qu'il puisse dire tout ce qu'il veut et qu'il n'y ait aucune sanction. Le roi a accepté. Il a ratatiné en petits morceaux. Il en a fait de la... Il y a eu, c'était tellement terrible que les chrétiens ont fait pression sur le roi d'extrader Nachmanide. Tu m'as dit que je pouvais dire tout ce que je voulais. Ouais, je ne peux pas, désolé. Alors il a quitté Barcelone et est allé en Israël, ici en Israël. Il est arrivé à Jérusalem, au mois de Elul, un peu avant les fêtes, Rosh Hashanah Kippour, il y avait trois juifs. Trois juifs. Il a amené quelques-uns qui habitaient Hebron et ils ont eu Minyan. Donc tu comprends que cette terre-là, elle a été vidée des juifs. Et pourtant le peuple juif, il reste juif. Et tous nos ennemis ont tout fait pour qu'on arrête d'être juif. Ah, ils ont reçu par-ci, par-là, un peu par-ci, par-là, mais rien du tout, on est là. Et maintenant on revient. Et tu vois les grands miracles que Dieu nous fait, phénoménal par rapport à nos ennemis, mais c'est phénoménal, tout cela est écrit. Alors on est un peuple, mais défini par quoi? Et là, la réponse à ces youtubeurs. La définition n'est pas rationnelle. On est défini par une âme, une réalité spirituelle divine que Dieu donne aux Juifs. Un converti, il est non-juif, il est français, écossais, italien, ce que tu veux. Il fait un certain processus qui finit par leur mikvé. Le mikvé, c'est un bain rituel, c'est une eau spéciale, une eau de pluie qui n'était pas en contact avec des ustensiles, etc. Il sort du mikvé, il devient juif, il reçoit une âme spéciale juive. Et puis, après quelques mois ou années, il dit, moi ça me casse les pieds, allez, je me convertis à l'islam, au bouddhisme, ou à la chrétienté, ce qu'il veut. Il reste juif, c'est indélébile. C'est indélébile. L'âme qu'on reçoit, un juif qui a une âme juive, il reste juif. Comment on reçoit cette âme? Ou bien par la mère qui est juive, ou par conversion en bonne ou due forme devant un tribunal orthodoxe. Sinon, ça vaut rien. D'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup de conversions qui valent rien du tout. Il faut le dire et le faire savoir. Parce que beaucoup de gens innocents vont là-bas et après, on leur dit, mon cher ami, t'es pas reconnu. Voilà. J'avais un élève ici qui est venu en tant que juif, tout ça, puis il s'avère que sa conversion, elle vaut rien. D'accord? Il est en train de refaire une conversion maintenant. Donc on est juif par cela. Et qu'est-ce qui se passe quand on devient juif? Soit à la naissance, soit par conversion, on reçoit une âme divine, éternelle, éternelle, indélébile. Et c'est ça la définition du juif. Mais finalement, ce n'est pas une définition rationnelle. Tu ne vas pas m'entendre regarder dans le dictionnaire Bordas ou autre, d'accord. D'ailleurs, ils ne savent pas ce que c'est. Il n'y a aucune définition du juif qui tient la route. Ici, en Israël, Israël est un État anti-juif, qui a voulu que le peuple juif disparaisse dans son identité juive. Ils ont fait une étude, ils ont pris 30 des plus grands savants israéliens des années pour définir c'est quoi un juif. Résultat, zéro. T'as pas de définition rationnelle et je double la mise 2 000 euros. Et des gens m'écrivent, mais ils comprennent pas qu'ils m'écrivent n'importe quoi. Je veux une définition qui explique c'est quoi le juif. Ça, il n'y en a pas. Donc, t'as ici une réalité qui existe. Ne dis pas qu'on existe, que c'est rien du tout. On est là depuis 3300 ans, mon cher ami. Et le monde entier parle de nous. Et tu vois qu'on vit une vie, une histoire extraordinaire. Il n'y a pas son pareil, un millième de cela chez les autres peuples. Donc on est là, et on suit le programme, et on revient sur notre terre. Qui on est? Désolé de te dire, on a une définition irrationnelle. Alors c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est haï. Parce que les goïm, goï, signifie quoi en hébreu? Goï signifie corps. Ça veut dire, tous les peuples ont une définition corporelle, rationnelle, par le juif, et ceux qui réfléchissent, comme ces gens-là, d'accord, qui ont quand même, ils ont mis le doigt sur un point intéressant, mais eux, ils ont fait en négatif, mais c'est au contraire en positif. Regarde, il y a une réalité ici, mais c'est vrai qu'elle n'est pas rationnelle. Alors qu'est-ce que vous êtes? Je t'ai déjà expliqué, tu peux expliquer Dieu? Même chose, on a une âme divine, c'est pas explicable, mais ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas et qu'on n'est pas là. On est là et on est bien là. Voilà, Be'ezrat Hashem, ce que nous avons à répondre à ces youtubeurs. Des questions là-dessus, messieurs? Baruch Adonai, l'olam, amen, v'amen.